André Caspi, bonjour.
Bonjour.
On se retrouve pour poursuivre cette histoire de l'Alliance israélite universelle. La semaine dernière, on a parlé de l'action pédagogique de l'Alliance israélite universelle à travers le monde. Aujourd'hui, c'est le thème de la lutte contre l'antisémitisme que nous abordons. Mais j'aimerais qu'on revienne un instant en arrière, André Caspi. On a vu que la manière qu'a eu l'Alliance de venir en aide aux Juifs en détresse à travers le monde, c'était de mettre à leur portée les lumières de l'Occident, en développant un réseau éducatif tout à fait impressionnant. Quel est le moment, je dirais, le pic du développement de ces écoles à travers le monde ?
À vrai dire, il y a trois pics. En 1914, l'Alliance étant créée en 1860, ça veut donc dire qu'elle a alors 54 ans. On compte 184 écoles réparties dans 15 pays, pour un total de 43 700 élèves. 43 700 élèves en 1914. En 1941, on compte 49 000 élèves. Donc le total a légèrement progressé. Et il progresse encore au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puisque en 1950, c'est là le pic le plus élevé, dans 10 pays, 135 écoles et 51 218 élèves. 51 218 élèves et après cela, le nombre décroît. Pourquoi décroît-il ? Ben, tout simplement parce que bon nombre d'États musulmans perdent une partie ou la totalité de leur population juive et en conséquence, les écoles disparaissent. Ça veut donc dire que le sommet est atteint au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, revenons sur la thématique d'aujourd'hui, la lutte contre l'antisémitisme. On a vu que, d'une certaine manière, développer des écoles dans le monde, c'est aussi lutter contre l'antisémitisme, parce que c'est donner aux Juifs de par le monde des armes pour se défendre.
Oui.
Mais il y a un autre moyen, je dirais, plus traditionnel, plus direct, c'est de défendre les droits des Juifs par la voie diplomatique.
C'est l'un des objectifs de l'Alliance lorsqu'elle est créée. Car il ne faut pas oublier qu'en 1860, les fondateurs ne pensent pas seulement à mettre sur pied un réseau scolaire.
Ils pensent d'ailleurs d'abord, je crois, à cette lutte par la voie diplomatique.
Exactement. C'est-à-dire que c'est d'abord un instrument de défense pour les Juifs opprimés en dehors de la France. Et il y a un certain nombre de pays qui sont visés. À l'époque, par exemple, la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro. Tous ces pays qui aujourd'hui nous paraissent entrer dans l'Europe telle qu'on l'imagine, mais qui à l'époque avaient malgré tout des législations antisémites contre lesquelles il convenait de militer. C'était vrai aussi pour la Russie, notamment avec les pogroms de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Et puis en Afrique du Nord, défendre les droits des Juifs au Maroc, c'était aussi l'une des priorités. Donc cela suppose de la part de l'Alliance une collaboration avec les autorités françaises, c'est-à-dire avec le ministère des Affaires étrangères. Et en ce sens, on peut dire que cette collaboration va plus loin encore, car le ministère des Affaires étrangères considère que l'Alliance fait partie de ses activités culturelles à l'étranger. Et je vais vous donner la preuve de ce que j'avance. Et là, nous allons sauter par-dessus les décennies. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle, à Londres, quand il crée la France libre, puis la France combattante, confie en 1943 à l'un de ses collaborateurs les plus proches, René Cassin, la direction d'une alliance qui a été dissoute, mais qui malgré tout conserve encore du prestige et de l'influence, parce que le général de Gaulle estime que l'action de la France passe aussi par l'alliance. Si vous voulez, c'est en ce sens qu'on peut dire que l'alliance a besoin de la France et que la France se sert de l'Alliance.
Alors, l'Alliance, du coup, a effectivement un statut tout à fait privilégié dans les organes internationaux. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples d'actions diplomatiques ?
Oui, on peut donner, je peux vous donner quelques exemples, puisque je les ai cités tout à l'heure. C'est-à-dire que l'action, par exemple, pour que les Juifs de Roumanie bénéficient du statut de citoyen à part entière. Il est évident que là, les Roumains ont un peu rusé, puisqu'ils ont dit oui officiellement, et dans la réalité des faits, l'antisémitisme s'est maintenu. On peut citer également les protestations que l'Alliance a émises lorsque les pogroms ont éclaté en Russie à partir de 1881. On peut citer également la défense des Juifs en Serbie ou au Monténégro que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a cette volonté de la part de l'Alliance de prendre à corps la défense de ceux qui sont opprimés. Et ça suppose qu'il y ait des liens étroits avec les diplomates, avec les politiques, qui peuvent exercer cette influence. Parce que n'oubliez pas que jusqu'en 1918, et même au-delà, la France tient une place essentielle dans l'histoire de la région méditerranéenne. C'est-à-dire qu'elle est une très grande puissance. Et du fait qu'elle est une très grande puissance, elle a des moyens d'action dont l'Alliance peut également bénéficier. Alors cette association est donc très favorable à l'Alliance, comme d'ailleurs, elle peut être très favorable à l'action du ministère français des Affaires étrangères, puisqu'il s'agit en fait de travailler main dans la main.
André Caspi, ce qu'il faut souligner, c'est que, ayant ce réseau d'écoles un peu partout, cela constitue bien sûr pour l'Alliance un observatoire privilégié de la vie quotidienne des Juifs dans tous ces pays. Et les directeurs d'école alertent le siège de l'Alliance sur les difficultés rencontrées. Et c'est l'occasion d'ailleurs de tordre le cou à l'idée reçue selon laquelle la vie pour les Juifs, notamment en terre d'islam, a été un long fleuve tranquille.
Alors bien sûr, encore une fois, je voudrais renvoyer aux lettres que les instituteurs et les institutrices envoient au siège à Paris. Ces lettres sont très révélatrices de ce que l'on constate dans ces pays musulmans. Les Juifs sont souvent victimes de discrimination qui s'accentue encore avec leur promotion sociale et intellectuelle. Mais il ne faut pas oublier que la lutte contre l'antisémitisme peut aussi avoir pour lieu privilégié la France elle-même. Tenez, je vais vous donner un exemple. L'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, elle éclate en France en 1894, et pendant une bonne dizaine d'années, elle met sans dessus dessous la société de notre pays. Rappelez-vous cette caricature de Carandache, qui était un humoriste de l'époque. Il montrait d'abord une famille réunie autour d'une table, l'atmosphère est sympathique, et puis deuxième caricature, les membres de la famille se battent avec, comme légende, ils en ont parlé. Donc parler de l'affaire Dreyfus, c'était véritablement créer le désordre le plus total dans les familles, dans la société. Et les Juifs là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, les Juifs sont assez discrets, malgré tout. Et il y a une sorte de gêne, si vous voulez. Il ne faut pas aller trop loin. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Juifs sont discrets, parce qu'il y a des Juifs qui, au contraire, ont combattu en faveur de Dreyfus. Bernard Lazare, et puis les frères Reynaud.
Mais c'est vrai que si on reste sur l'Alliance, il y a effectivement un paradoxe entre une action flamboyante, très active, quand l'antisémitisme se manifeste dans les terres lointaines, et tout d'un coup, quand il est au cœur de la France, effectivement, une tendance à se replier, à avoir peur de faire des vagues, peut-être à agir dans la discrétion.
Il faut bien comprendre que dans la société française du début du XXe siècle, parce que c'est à cette époque-là que l'on peut évoquer ce que vous venez de dire, il n'y a pas l'idée de créer une sorte d'ancêtre du CRIF. Ça n'est pas le CRIF, l'Alliance. C'est-à-dire, l'Alliance, elle est faite avant tout pour agir à l'extérieur. Et comme elle exporte le modèle français, il lui est extrêmement difficile, à l'intérieur, de critiquer ce modèle. Elle ne peut pas dire nous allons vous porter vers la modernité française et en même temps dire cette modernité française, elle a des hauts, elle a des bas, elle a des creux, elle a des bosses et elle n'est pas parfaite. Ce qui veut dire que les Israélites français ont une attitude relativement discrète et attendent que leurs alliés, que leur soutien réussissent là où eux-mêmes sont un peu hésitants.
Mais quand l'Alliance devient la cible privilégiée de la littérature antisémite, parce qu'effectivement, une organisation juive à dimension internationale, c'est quand même du pain béni pour les littérateurs antisémites. Là, il faut bien qu'elle réponde.
Oui,
parce que ça a été le cas, André Caspi.
Bien sûr, elle doit répondre. C'est l'adjectif universel qui fait problème. Si elle est universelle, ça veut dire que tous les juifs s'unissent les uns aux autres et qu'ils constituent un lobby, comme on dirait aujourd'hui, un lobby international. Donc il faut bien montrer que cette alliance, elle est avant tout française et qu'elle défend des intérêts français, mais des intérêts français et des intérêts juifs. Il y a toujours cette double identité que l'on a déjà découverte avec les fondateurs. Elle reste, si vous voulez, au cœur même de l'alliance, juif et français, français et juif.
Alors les choses, justement, vont devenir bien compliquées quand l'antisémitisme va prendre une tournure encore tout à fait différente avec la Seconde Guerre mondiale. Et là, ça va devenir compliqué pour l'Alliance de tenir l'équation.
Ah ben évidemment, parce que c'est un choc, mais c'est un choc pour tous les juifs de France. C'est un choc de penser que la République française peut cesser d'être bienveillante à l'égard des juifs. C'est un choc de penser que la législation peut créer, peut être antisémite. Et ça, et les fondateurs de l'Alliance n'y auraient jamais songé, bien entendu. Et les dirigeants de l'Alliance de cette époque sont comme tous les Israélites français de leur époque. Ils sont désarçonnés par cette politique à laquelle ils ne s'attendaient pas.
André Caspi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder une question passionnante et controversée, l'Alliance israélite universelle face au sionisme avant la Seconde Guerre mondiale.